Voilà, bonjour à vous. Donc on continue dans cette série de 10 enseignements clés qui correspondent à l'ADN, au fondement de l'église du tabernacle. Donc nous avons vu le royaume de Dieu et la moisson, le royaume de Dieu et l'ecclésia, et nous avons vu eh bien, la notion de la restauration de l'église et combien nous avons besoin tellement de prier, de pouvoir s'investir pour que l'église telle que nous la connaissons puisse passer par une réforme, et c'est ce que nous appelons eh bien, une réforme apostolique, voyez. Donc peu à peu nous redécouvrons les vérités perdues, c'est ce que nous appelons eh bien, la nouvelle réforme apostolique. Alors voyez, l'apostolique commence et s'achève avec Jésus. Il nous est dit que Jésus est l'envoyé du Père, le grand apostolos de notre foi. Et il est et doit demeurer le centre, voyez, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, tout a été créé par lui, pour lui, voyez. Mais, donc le mot apostolique veut dire simplement envoyé. Et donc il nous faut rentrer dans une transformation de notre intelligence pour comprendre le mandat apostolique de l'Église. Voyez, la structure fondamentale de l'Église doit être changée. Ce dont il est question, c'est ici la vie. Vous voyez, on a parlé de la vie de la première église, de l'église du Nouveau Testament, livre des Actes, voyez. On a besoin eh bien, que la structure fondamentale de l'église doive être changée. Vous voyez, la question, la vie doit être reçue, soutenue et donnée. Il n'y a pas de vie sans structure. Et dès que la vie apparaît, une structure est créée pour soutenir cette vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 37 et 38. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Vous voyez, la semence contient la vie. Et quand cette semence précieuse est mise dans la bonne terre, la vie qu'elle contient se manifeste. Mais cette vie se fera connaître à la forme qu'elle prendra. Vous voyez, le corps qui lui est propre. Chaque espèce a son propre corps. Vous voyez, la vie vient d'abord, puis la structure suit pour soutenir cette vie. Et Jésus a pu parler justement de la notion de la vie et de la structure. Dans Marc chapitre 2, verset 27-22, « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre des outres, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut que mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Et dans cette réforme apostolique, eh bien, le texte de, voyez, le contexte de ce texte, c'est Jésus qui parle aux disciples de Jean-Baptiste, qui étaient des disciples, voyez, de l'ancienne alliance, qui étaient dans cette transition, et il leur dit, mais vous avez reçu eh bien, le vin nouveau eh bien, de l'ancienne alliance, l'outre de l'ancienne alliance. Mais moi je viens non pas pour mépriser l'ancienne alliance ou pour mépriser le vin de l'ancienne alliance, mais je viens avec le vin de la nouvelle alliance. Et dans ce vin de la nouvelle alliance, il faut qu'il y ait une outre neuve. Sinon, eh bien, il y aura une tension à cause de la fermentation par rapport à l'esprit religieux, l'esprit du légalisme, tout ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à l'esprit des pharisiens. Vous voyez, le but de l'outre, c'est d'héberger la vie. Cette réforme apostolique nous amène à, je dirais, à aller vers cette outre neuve qui va contenir la plénitude de la vie de Dieu, la plénitude eh bien, du projet de Dieu. Voyez. Sans l'outre, le vin ne peut se développer pour atteindre son plein potentiel. L'outre est pour le vin, mais sans l'outre, il n'y aurait pas de vin. Quand un vin vieillit pour devenir meilleur, il ne demeure pas statique. Vous savez, on dit que le vin eh bien, se bonifie, voyez. Eh bien, la vie ne cesse de croître. C'est cette vie abondante dont Jésus nous parle dans Jean chapitre 10, verset 10. Chaque fois que nous luttons pour préserver la structure, voyez, de la vieille outre au détriment de la vie, nous séchons. Chaque fois que nous laissons la vie suivre son cours sans structure appropriée, alors elle se renverse. Voyez, il y a deux façons de fer qui sont malheureusement trop communes. Certains vivent dans la sécheresse et certains vivent dans l'ivresse. Et il nous faut du vin nouveau dans des outres souples, dans des nouvelles outres. Alors, nous avons cette tendance que nous avons à maintenir ce que nous avons reçu, voyez. La semence précieuse qui a été mise dans la terre de l'Église est une semence vivante, destinée à obtenir des récoltes de plus en plus vastes. Le vin nouveau qui est versé en nous provoque une expansion à tout niveau. Le vin nouveau, il s'agit de la révélation, non pas d'une nouvelle révélation, mais de la révélation des vérités perdues, voyez, des vérités oubliées. La rigidité mène à mort et vice-versa, voyez. Pourquoi s'en trouve-t-il tellement à lutter pour préserver de vieilles structures plutôt que d'embrasser des outres souples qui obéissent au mouvement de la vie? Et dans ce que nous appelons la nouvelle réforme apostolique, nous désirons suivre la vie de l'Esprit. L'Esprit qui nous amène, je dirais, à reconsidérer, eh bien, la réalité de l'Église en tant que non pas une Église synagogos, une Église, vous voyez, religieuse, communauté, eh bien, qui est entre quatre murs et qui attend l'enlèvement, qui est en retrait du monde, mais une Église ecclésia qui a cette autorité pour, vous voyez, pour amener ce règne du Christ sur la terre jusqu'à ce que le Christ revienne, voyez. Donc c'est un mouvement de vie, un mouvement dynamique. Et malheureusement, alors que nous avons retrouvé des vérités bibliques, et vous voyez ça dans l'histoire, eh bien, de l'Église, il y a eu des réveils, il y a eu un mouvement, et malheureusement, ce mouvement, peu à peu, quelques années après, est devenu un monument. Vous voyez, on se souvient de telles visitations du Saint-Esprit, mais Dieu ne désire pas que nous puissions devenir un mouvement, mais que nous puissions continuer ce mouvement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voyez, jusqu'à ce que je revienne, voyez. Donc il y a ce paradigme pastoral. Dans la plupart des cas, la direction de l'Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été confiée soit à des pasteurs ou soit à de brillants administrateurs. Et en raison de leur appel spécifique, eh bien, les soins, la protection, davantage que la réforme, sont devenus le mode opérant. Parce que nous avons hérité cela. Eh bien, je dirais voyez, de toute cette institution catholique romaine. Ensuite, il y a eu cette réforme avec Luther, mais on a remplacé le curé par le prêtre, par le pasteur, voyez. Mais Dieu désire pas que nous puissions en rester, voyez, au niveau pastoral simplement, à la découverte d'un seul ministère, mais Dieu veut que nous puissions rentrer dans la plénitude de Christ en accueillant les différentes facettes du ministère de Christ au travers des cinq ministères. Alors, à cause de ce paradigme pastoral, eh bien, on en est resté aux petits troupeaux, aux soins, à la protection, voyez. Et on n'est pas rentré dans un mouvement de réforme, dans un mouvement missionnaire, dans un mouvement visionnaire. Voyez, voici comment nous pouvons voir l'ensemble du tableau. Le prophète perçoit qu'il y a de meilleurs pâturages de l'autre côté de la montagne qu'on voit au loin. Il dit, ah là-bas, il y a de meilleurs pâturages, si nous prenons l'exemple d'un troupeau. L'apôtre dit, allons voir cela de plus près. Il nous amène dans un mouvement, dans une marche, en mission. L'évangéliste se met à passer le mot au troupeau et à dire, nous allons partir, hein, ne restez pas là, ne restez pas seul, ne restez pas perdu, joignez-vous au troupeau. Le pasteur s'assure qu'il y a suffisamment de provisions pour la route, parce qu'il ne désire pas que les petits du troupeau meurent. Et l'enseignant prépare des cartes et une étude de l'histoire des lieux qu'ils traverseront. Vous voyez, chaque ministère a sa fonction, son caractéristique, et ce n'est pas une position, mais c'est une onction, et l'onction définit la fonction, voyez. Ce n'est pas un titre de pouvoir de s'élever au-dessus du peuple, mais nous ne sommes pas le haut de la pyramide, mais nous sommes plus le fondement qui pousse chaque membre du corps de Christ à rentrer dans son service. Voyez, je rappelle que si Dieu a donné des apôtres, c'est pour que tous soient envoyés. Si Dieu a donné des prophètes, c'est que nous puissions développer cette écoute du Saint-Esprit, de la voix de Dieu. Si Dieu a envoyé des évangélistes, c'est pour que nous puissions capables, équipés pour témoigner aux perdus. Si Dieu a envoyé des pasteurs, c'est pour que nous puissions être gardiens de notre frère. Si Dieu a envoyé des enseignants, c'est que nous puissions enseigner déjà les rudiments élémentaires de la parole de Dieu. Voyez, lorsque la structure ne sert pas la vie, lorsqu'elle devient rigide, le résultat est l'avortement ou la fausse couche, voyez. Eh bien, la structure destinée à célébrer la vie devient un cercueil. Et malheureusement, nous connaissons tous des églises, je ne sais pas, un service de célébration, mais c'est plus, voyez, un service d'inhumation, d'enterrement. Et combien nous avons besoin d'aimer l'Église. Nous avons besoin de prier pour l'Église. Nous avons besoin nous-mêmes d'avoir cette révélation du royaume, cette révélation de la moisson, cette révélation de l'Ecclésia, cette révélation de la restauration de toutes choses, afin comme étant ce levain du royaume, dans l'image d'une parabole du royaume dans Matthieu 13, le levain fait lever toute la pâte. Donc ne méprisez pas l'Église, n'abandonnez pas l'Église, ne critiquez pas l'Église, mais soyez des agents de transformation. Voyez, nous voulons une structure qui célèbre la vie. L'Église a besoin d'un leadership du ministère apostolique, un agent de vie qui établit la structure d'après la vie. Le Seigneur place cette fin en nous pour nous provoquer au changement. Nous sommes dans des temps de réforme apostolique, dans un temps de réveil. C'est une fin qui secoue notre complaisance, voyez, notre passivité, et qui nous fait crier à Dieu, qui nous pousse à l'action. Je ne supporte plus l'esprit religieux. Voyez, la religion désire que nous puissions rester qu'entre nous, entre nos quatre murs, ou avoir des réunions pour être bénis, mais la notion, eh bien, du mandat apostolique, c'est être envoyé, voyez, d'être équipé. L'Église se rassemble pour ensuite l'Église se répand comme semence dans le monde. Voyez ? Et Dieu suscite cette faim et cette soif de l'Esprit, cette faim et cette soif de ce mandat apostolique, de cette restauration de l'Ecclésia. Elle a pour but d'être un catalyseur pour déclencher une réaction en chaîne qui va remodeler jusqu'à ce que la vie abondante devienne la norme. Le ciel sur la terre, que ton règne vienne sur la terre. Voyez, une plus grande manifestation du royaume de Dieu. Donc, le Seigneur veut faire naître quelque chose sur la terre au travers de son Église, de son Ecclésia. Il veut voir la formation d'une nouvelle outre dans laquelle le vin nouveau venu du ciel peut être déversé sans être répandu par terre. Nous sommes appelés à former ce contenant où le ciel peut habiter la terre. Et je rappelle que le vin nouveau, c'est cette sagesse de Dieu, c'est cette révélation de Dieu, c'est cette connexion avec la grâce de Jésus-Christ, avec l'amour du Père, avec la communion du Saint-Esprit. C'est cette connexion eh bien, avec la parole de Dieu et avec cette notion, vous voyez, de vivre eh bien, la puissance. Eh bien, la vie et la puissance de cette première église que nous trouvons dans le livre des Actes, voyez. Comment, en tant que croyants, pourrons-nous devenir une demeure pour la présence de Dieu, une expression active de son cœur sur la terre? Et c'est pour ça que nous parlons du mandat apostolique, voyez. Qui t'a envoyé? Et dans toute aventure apostolique, donc apostolique ça veut dire envoyé, il y a trois éléments. Il y a celui qui envoie, celui qui est envoyé et une mission. C'est là tout le sens, eh bien, je dirais, de ce que Dieu est en train de faire au travers de cette redécouverte eh bien, des principes, voyez, de l'Église, du fonctionnement de l'Église. Jésus est notre apôtre. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Voyez, apostolos, hein, le mot apôtre veut dire envoyé, Galates 4, 4. Hébreux 3.5, pour Moïse, il a été, voyez, fidèle dans toute la maison comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Voyez, quand Moïse s'est présenté vers son peuple, vers Pharaon, mais qui t'a envoyé? Celui qui a dit « Je suis », eh bien m'a envoyé. Voyez, Moïse a été fidèle dans la maison comme serviteur, mais Christ l'est comme fils. sur sa maison. Hébreux 3:6, Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur que nous professons. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à Moïse. Voyez Hébreux chapitre 3. Dans toutes nos discussions et tous nos efforts pour bâtir de façon apostolique, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Voyez, celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Et Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez, 1 Jean chapitre 4, 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc voyez, qui a envoyé? Bien, c'est le Père, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et ainsi, nous avons quelqu'un qui envoie, quelqu'un qui a envoyé, et une mission. Et nous savons que le Père a envoyé Jésus, Jésus est l'envoyé du Père, et il a eu un ordre de mission de venir accomplir cette œuvre sur la croix, voyez, pour nous réconcilier au travers de sa mort et de sa résurrection, pour nous réconcilier avec le Père. Alors, ce mot « apostolos », comme ce mot « ecclésia » n'est pas tiré des termes religieux, hein, mais d'un terme plus politique, de gouvernement, d'autorité, de royaume, le royaume de César. Et il nous est parlé, voyez, par exemple, de l'Empire romain. Voyez, les principaux mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire le concept apostolique est « apostolos », le nom, apostello, le verbe, et apostélé, le nom, qui désigne à la fois l'apostolat et l'apôtre, voyez. Et c'était un terme grec aussi de la culture gréco-romaine, de l'envoi d'une flotte, des consuls avec une armée, c'est-à-dire une expédition. Comment l'armée romaine envahissait un pays, l'occupait et le transformait? L'envoyé était appelé apôtre. Apostolos, l'empereur envoyait une flotte ou une armée dirigée par un consul, eh bien, avec une mission claire, prendre ce nouveau territoire. Rome était dirigée par des empereurs, quoique faisait constamment la guerre, jusqu'à ce que le monde d'alors soit conquis. Et cela se produisit sous Octave, qui a ainsi inauguré, écoutez, une période de 200 ans de paix, connue sous le nom de la Pax Romana. La raison de cette période de paix repose non seulement sur le fait que tous les pays avaient été conquis, mais sur la capacité des Romains à établir un mode de vie dans ces pays conquis, avec leurs armées s'y installant en permanence après l'invasion pour occuper les lieux. Plusieurs de ces sociétés ont bénéficié de la règle romaine qui fut imposée, par exemple l'introduction des modèles romains pour les bains publics, les routes, les aqueducs, l'habitation, et une stabilité qui rendait la vie plus facile pour les populations. Voyez, il y avait donc trois phases stratégiques pour une conquête réussie. Envahir, occuper et transformer. Envahir, occuper et transformer. Voyez, c'est ça, eh bien, le mandat apostolique, c'est pouvoir envahir pour pouvoir occuper et pouvoir transformer. Voyez, ecclésia, c'est un terme qui n'est pas tiré de la terminologie religieuse, mais politique, et le mot apostolos, voyez, c'était un consul. Voyez, Jésus a quitté le ciel, envoyé par son Père, avec la mission et l'autorité d'envahir le monde, l'occuper et le transformer. Et en d'autres termes, Jésus a été envoyé pour apporter la règle du royaume de Dieu sur terre comme au ciel. C'est préparer une demeure pour la sainte présence de Dieu. Une maison pour Dieu avec les hommes, voyez, tabernaclée, habitée parmi les hommes. La victoire de Jésus sur la croix et sa résurrection ont établi une tête de pont permanente, d'où ses armées apostoliques sont constamment dépêchées pour envahir la terre avec l'évangile du royaume. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et Dieu, au travers de cette réforme apostolique, nous amène à comprendre, eh bien, voyez, cette notion d'être envoyé, de pouvoir envahir, de pouvoir occuper, transformer, non pas dans un esprit d'impérialisme, mais dans un esprit d'humilité, dans un esprit de service, pour démontrer l'amour de Dieu, l'amour du prochain, pour démontrer la réalité que Dieu est un Père, voyez. Christ désire que nous soyons en tant que membres de son corps, premièrement remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Éphésiens 1, verset 23. Ceci pour pouvoir reprendre et compléter ce mandat d'origine donné à Adam et à Ève de remplir la terre et de l'assujettir, voyez. Le plan avec la création était d'établir une habitation sur la terre où Dieu aurait partagé son autorité avec des gens créés à son image. Le plan avec le salut est de nous ramener au mandat originel pour que nous le complétions enfin. Jésus n'est pas venu nous ouvrir une sortie de secours pour nous enfuir de la terre, mais pour nous donner la puissance de prendre les commandes et voir son royaume établi au travers de nous, par un esprit d'humilité et de service. Ceci appelle à une transformation radicale de tous les aspects de la société. Voyez, voilà la tâche qui est toujours devant nous en tant qu'Église, jusqu'à ce que nous voyons que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Voilà le mandat apostolique de l'Ecclésia. Alors l'envoi apostolique, c'est celui qui envoie. Dans Jean, nous voyons souvent Jésus parler de son Père, celui qui l'envoie. Il appelle son Père celui qui m'a envoyé. Et nous trouvons seulement dans l'évangile de Jean 20 fois cette expression. C'est celui qui m'a envoyé. Et il nous est parlé aussi de celui qui est envoyé. Dans Jean chapitre 5, versets 37 et 38, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu ce témoignage lui-même de moi. Vous n'avez pas jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vue parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. » Voyez, le Père et le Fils, Jésus et le Père sont liés par l'unité apostolique, par ce mandat apostolique d'être envoyé avec une mission. Jésus a pu dire, eh bien, voyez, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Jean 16, verset 28. Jésus est venu du Père et retourne au Père. Voyez, qu'avait-il entre ces deux états, sa mission apostolique, venir dans le monde et quitter ce monde? L'envoi apostolique est un mouvement dynamique qui est le ciel et la terre qui ont une destinée divine afin de réconcilier ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Donc la dimension apostolique avec la dimension de l'envoi est ainsi devenue partie intégrante de l'unité du Père et du Fils. Voyez. Or Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, c'est celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Voyez, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie et que tu m'as envoyé. Voyez, Jean chapitre 15, Jésus parle de cette unité avec son Père, voyez. Et il désire que nous puissions connaître la même profondeur de son union avec le Père. Alors, voyez, il y a cette dynamique dans Matthieu chapitre 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Cette grande commission, l'évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 24, 14, voyez. La provision apostolique, fusion avec celui qui envoie, la vie du Père qui se déverse dans le Fils qu'il a envoyé, le nourrit, produit la vie du Fils qui se déverse en nous et qui nous nourrit. Voyez, la source de l'autorité apostolique, voyez, sur terre comme au ciel, que ton règne vienne. Et nous voyons non une église, voyez, de type pastoral, mais l'ecclésia, l'église avec un fonctionnement des cinq ministères, avec cette notion, voyez, d'une onction apostolique qui peut reposer sur un homme ou sur plusieurs. Une onction apostolique, voyez, si on veut envahir un territoire, il nous faut lever une équipe ou des troupes pour cette opération. Jésus, après une nuit en prière, il choisit 12 apôtres et il les a aussi entourés de femmes qui pourvoyaient à ses besoins. Barnabas va chercher Paul et les ramène à Antioche. Paul et Barnabas vont fonder des communautés, y placer des anciens. Paul et Silas, un prophète, des équipes apostoliques se créent. Voyez, nous voyons la notion d'apôtre, d'équipe apostolique, de centre, de réseau. Les apôtres, depuis des années, s'entourent d'équipes apostoliques, établissent des centres apostoliques et dirigent des réseaux apostoliques. Vous voyez, on parle de la réforme apostolique, de l'onction apostolique, d'équipes apostoliques, d'églises, de centres apostoliques, de réseaux apostoliques. L'église de Jérusalem, un modèle dans le ciel, il doit y avoir un modèle dans le ciel. Vous voyez, le Seigneur veut se reproduire sur la terre. Moïse va construire le tabernacle sur le modèle donné par l'Éternel. Sur la montagne, la gloire de Dieu viendra par la suite. Voyez, un modèle dans le ciel, voyez, cette notion de la Trinité, cette notion de l'équipe, cette notion de celui qui envoie, qui est envoyé, cette notion de la mission, mais un modèle sur la terre. Acte 2, 41. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez ce dynamisme de cette église ecclésia et non pas de cette église synagogue avec cette marque de la religion. Dans Acte 13, verset 2, « Pendant qu'ils servaient à Antioche, le Seigneur dans leur ministère qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voyez, d'Antioche, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Antioche envoyait des équipes apostoliques en mission, voyez. Donc il y avait une première expansion de cette église apostolique, voyez, une première base apostolique à Antioche. Paul y revenait toujours, il y avait des apôtres, des prophètes, le don pastoral, des docteurs. Il y avait des diacres qui étaient là, voyez. Le Saint-Esprit aux commandes, il choisit et il envoie. C'est le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit, voyez, qui est là. Il y a eu toujours le discernement des ministères qui étaient là pour juger, eh bien, cette parole, pour discerner, pour retenir ce qui est bon. Voyez, un homme choisi, ce fut Paul qui allait de lieu en lieu. Il y a eu des guérisons, des miracles, résistance aux persécutions. Voyez, il y avait cette autorité apostolique parce que ce modèle avait été, je dirais, c'était cette nouvelle outre. Des équipes apostoliques, Paul ne travaillait pas seul. Paul, Barnabas, Jean, puis Paul avec Silas, Timothée, Luc s'ajoute, voyez, Prisca et Aquilas, les compagnons d'œuvre de Paul, Apollos. Il y a différentes diversités de dons dans ces équipes. Des communautés de croyants, les nouveaux croyants étaient ajoutés à une église, à une famille spirituelle. Paul fortifiait quelques-uns et les plaçait à veiller sur les églises. C'est pour ça qu'il a nommé des anciens. Vous voyez, il y a eu un mouvement apostolique. L'Église étendait dans les différents territoires. Elle pouvait envahir, elle pouvait occuper et transformer, voyez, les différents territoires à cause de cette dynamique apostolique. Et je rappelle qu'apostolique veut dire envoyé, avec cette autorité apostolique, avec cette vision apostolique, avec cette mission apostolique. Il y avait des centres apostoliques à Corinthe, à Éphèse, où Paul restait jusqu'à 3 ans. Des réseaux apostoliques, toutes ces églises étaient reliées en réseau. Visite de Paul, lettres envoyées, vous voyez, c'était des précieux documents à l'époque. Vous voyez, et le dynamisme, c'est ça. La plupart des églises fondées par Paul étaient des églises pastorales ou églises locales. Mais ces églises demeuraient alignées avec l'apôtre. Voyez, malheureusement, il n'y a plus cette notion apostolique dans l'église. Il y a des églises pastorales, des bonnes églises pastorales, avec des pasteurs fidèles qui veillent sur le troupeau. Il y a le soin, voyez. Mais ces églises dans le Nouveau Testament étaient alignées avec l'apôtre qui gardait le contact avec elle par le biais des membres de son équipe, des lettres, des visites, voyez, occasionnelles. Mais lorsqu'il y a eu la disparition du ministère apostolique, un système ecclésial s'est mis en place, transformant ces églises en vieilles outres, n'atteignant pas son plein potentiel d'origine. Vous voyez, on a parlé de épiscopos, voyez, on a parlé d'évêque. Et peu à peu, il y en a un qui s'est élevé au-dessus des autres, voyez, et qui, au travers de ses esprits religieux et politiques, a pris le pouvoir. Voyez, et on a perdu cette fraîcheur de l'outre nouvelle. Voyez, Paul choisissait les centres apostoliques. Donc chaque église pastorale était liée par des réseaux de ministères à cette onction apostolique, pour former cette nouvelle outre. Sinon, cette outre, eh bien, se desséchait. Paul choisissait de s'établir dans certaines villes. Il devenait l'apôtre résident et dirigeait directement les opérations aussi longtemps pour développer un autre type d'église, une église avec une structure et un gouvernement apostolique. Dans ce cas, le gouvernement de l'église n'était plus constitué d'anciens, mais plutôt d'une église apostolique exerçant plusieurs dons et dirigée par un apôtre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le centre apostolique qu'on trouve dans Corinthe, Éphèse. Voyez, poursuivant le modèle d'Antioche. Alors, l'unité apostolique, la clé du royaume, voyez, frères et sœurs, nous sommes là non seulement pour avoir des bonnes réunions, pour être, voyez, bénis, mais nous sommes là, je dirais, pour aller et être saisis par l'Esprit apostolique. Seigneur, je te prie pour notre écoute, cette méditation de ces textes bibliques. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour la religiosité dans l'Église. Nous te demandons pardon pour la sécheresse dans l'Église. Nous te demandons pardon pour l'aveuglement dans l'Église. Nous demandons pardon pour la pauvreté des dons dans l'Église. Nous demandons pardon pour la nudité. C'est pourquoi nous voulons revenir à toi et nous te demandons, eh bien, réellement un collyre sur nos yeux afin que nous puissions voir la réalité de cette église, à Ecclésia, avec ce mandat apostolique qui se lève dans les nations.